Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais te raconter ma vie, mais littéralement en fait, parce que je vais donner des interviews la semaine prochaine, lundi en fait, et que tu vois, je me pose toujours un peu des questions. Bon, c'est j'ai un tempérament anxieux, donc j'ai tendance à surpréparer les choses. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients, voilà, notamment au niveau de l'agitation mentale. Ça peut être assez sévère dans mon cas personnel. Et donc, il y a un moment où on va me demander de me présenter et voire de parler de mon parcours, de ma vie d'avant, des choses comme ça. Et c'est un exercice dans lequel je me sens pas particulièrement bon parce que je connais pas forcément la finalité de cet exercice. Et ça peut être une première idée directrice de cet épisode, de cet enregistrement, que si je te raconte quelque chose dans le cadre du podcast, ça doit servir à t'apprendre quelque chose, d'accord? Ou en tout cas à te proposer quelque chose à partir duquel tu puisses réfléchir en positif ou en négatif par rapport à mon opinion. Et ce genre de réflexion sur des points spécifiques de notre pratique te permet de structurer ta pensée, que tu sois en accord ou en désaccord avec ce que j'exprime. L'idée, c'est d'avoir des repères. Telle personne propose telle idée. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je suis d'accord, je suis pas d'accord, entre les deux, etc., etc. Et on apprend comme ça à se situer dans nos métiers, dans nos pratiques, et à trouver son chemin dans la vie. Voilà. Une autre idée qui peut accompagner ce que je viens de dire, c'est que pour les cas où on se demande comment faire quelque chose, je pense qu'on peut. On peut s'intéresser à l'objectif, à la finalité, la fonction de ce qu'on est en train de faire. En l'occurrence, comment je peux raconter mon parcours, ma vie avant l'hypnose, à quoi ça sert tout ça? Ça peut servir à me mettre en valeur en tant que praticien, formateur, auteur, podcasteur, voilà, par exemple en disant, comme le font beaucoup, enfin quelques-uns, quelques-unes hypnotistes un peu médiatiques, entre guillemets, c'est de rajouter des années d'ancienneté en disant, par exemple, que j'ai découvert l'hypnose à l'âge de 10 ans, voilà, juste après avoir écrit ma première symphonie, voilà. Et t'as comme ça un espèce de biais rétrospectif dans la manière dont les gens se racontent. Et c'est le cas aussi pour les gens que nous recevons dans nos cabinets pour les séances d'hypnose. Cette espèce de biais rétrospectif, c'est que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été là, tu vois. Je suis anxieuse, je suis angoissée, j'ai toujours été stressée. Ça a toujours été comme ça. Et c'est là qu'on précise, ok, toujours c'est depuis quand, aussi loin que vous vous en rappelez, d'accord. Voilà. Et on arrive à avancer comme ça. Mais dans le cas des hypnos, tu as quand même toujours ce complexe de la reconversion qui est vraiment présent, quoi, qui est vraiment prégnant, qui peut être envahissant. J'entends des hypnos qui ont plus de 10 ans de pratique, tu vois, d'ancienneté réelle, c'est-à-dire comment on mesure l'ancienneté dans un métier, ben, c'est à partir du moment où tu le pratiques de manière officielle. Moi, ça fait 10 ans, pas plus, pas moins, que je fais de l'hypnose, en fait. Ça fait 10 ans que mon numéro de Siret existe et que j'exerce. Voilà. Donc la première année un peu à temps partiel, c'était chaotique, c'était pas génial ce que je faisais. Et puis mon cabinet s'est rempli. Parce qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup à faire ça, donc je pense que ça m'a aidé à démarrer. Ce serait peut-être plus difficile aujourd'hui. Ce serait peut-être plus facile parce que les gens ont moins peur de l'hypnose, que ça s'est un peu normalisé, voire banalisé. Le contexte, voilà, le contexte dans lequel je te parle, c'est ça. Je pourrais démontrer plus ou moins par A, plus B, plus D, plus E, travailler un peu les événements, les arranger, leur donner plus ou moins une cohérence, en faire un récit par ce fameux biais rétrospectif que je faisais pas réellement de l'hypnose, mais c'était déjà un peu là, il y avait déjà une intuition, il y avait une prédétermination, j'étais déjà prédestiné, mais je m'en rendais pas compte, donc c'est possible, hein. Moi je pense que de toute façon, quand on pratique l'hypnose, il y a un moment où on est tombé sous le coup d'un genre de suggestion, et on est resté fasciné par cet art, en fait, par cette pratique. Comme disait Daniel Goldschmidt dans l'entretien qu'on a fait sur l'hypnose de François Rostand, les hypnoses sont en hypnose devant l'hypnose, en fait, quoi. Voilà. C'est quelque chose de très irrationnel, en fait, d'être fasciné par ça. Et c'est OK parce que dans notre pratique, on considère que d'être irrationnel, c'est la norme en fait, quoi. C'est rationnel d'être irrationnel, d'une certaine façon. Une difficulté que j'ai pour raconter mon parcours, c'est la difficulté de ne pas partir dans tous les sens. Et en même temps, si je veux être un peu honnête, sincère avec moi-même, à défaut de l'être complètement avec les autres, puisqu'il s'agit aussi de se mettre en valeur. Bon, puis donner envie aux gens de m'écouter, c'est compliqué de sélectionner les éléments de ma biographie que je vais valoriser, que je vais mettre un peu sous le tapis, tu vois, que je vais déformer plus ou moins, voilà. Et j'ai pas assez de prestige pour avoir un biographe, tu vois, comme Erickson avec Rossi, voilà. J'ai pas ce luxe-là. Donc, ça peut servir à quoi de raconter mon parcours? Qu'est-ce que toi, ça peut t'apprendre? Bah, ça peut t'apprendre l'influence de mon parcours sur ma pratique actuelle. Je vais essayer, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on parle pour moi, on parle de déterminisme, en fait. C'est-à-dire que je vais pas te raconter un parcours extraordinaire. Mon parcours, il est extrêmement banal, en fait. Et pour moi, c'est une bonne chose. Mais je vais, voilà. Je vais y venir en quoi pour moi être une personne ordinaire est une très bonne chose. Donc, je m'appelle Emmanuel Winter, j'ai 48 ans, j'ai un fils qui a 15 ans, voilà. C'est là-dessus que je démarre. Mon truc dans la vie, voilà, c'est ça. En tant qu'être humain, je suis avant tout un père. J'ai un fils, j'ai trois belles-filles, une femme. Bon, voilà. On vit ensemble, plus ou moins, les filles sont grandes, elles vont à la fac, etc., etc. Il y a de l'ambiance, c'est sympa, voilà, ça c'est ma vie privée, c'est stable, c'est normal, c'est conventionnel, c'est ordinaire, ça se passe bien, ok? Je suis content, je suis satisfait avec ça. Et à côté de ça, depuis une dizaine d'années, je pratique l'hypnose. Donc qu'est-ce que ça veut dire pratiquer l'hypnose? Ça veut dire que des gens viennent chez moi, prennent rendez-vous, ils demandent à venir, ils me sollicitent, ils me demandent de venir chez moi en échange d'un paiement de 70 euros pour une heure et demie de travail. Et ce qu'ils attendent de moi, c'est de les hypnotiser et ça les aide. Alors ça les aide à quoi? Ça les aide en l'occurrence à se sentir calme, détendu, clair et capable de gérer les choses. D'accord? Le problème que les gens viennent résoudre en venant chez moi, c'est l'angoisse, c'est le stress, la tension, l'anxiété. Parfois, souvent, enfin régulièrement en tout cas. De manière assez régulière, c'est des phobies, des addictions aussi. Beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Et il y a très peu de prise en charge qui tient la route, en fait, au niveau de la prise en charge de l'alcoolisme. Il y a des choses, mais il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de besoins qu'il n'y a d'offres, en fait. C'est un problème structurel. Il n'y a pas les moyens de soigner les gens. Il y a une volonté, il y a des compétences, il y a des addictologues, il y a un système, mais le système est complètement surchargé. Ce qui fait que beaucoup d'addicts, en fait, j'ai aussi pas mal de fumeuses, fumeurs de haschich, bah, ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les pratiques de soins non conventionnées. Et on reviendra peut-être sur ce terme par la suite. Donc clairement, moi je fais de l'hypnose de relaxation. C'est ça mon truc, la promesse, le cadre, la compétence que je mets en avant, c'est l'hypnose de relaxation. Je vais pas argumenter pendant des heures pour démontrer que la relaxation en soi est bénéfique et permet de faire face aux problèmes de la vie. Ça, c'est quelque chose que je tiens de mon parcours. Et donc, mon parcours, ma vie, donc un jour je suis né, donc je suis né au Havre, au bord de la mer, voilà, j'avais des parents, enfin j'ai encore une mère, mon père est décédé. Et puis à un moment, pour raisons professionnelles, mes parents sont venus s'installer dans la région de Mâcon et depuis 1984, je n'ai jamais quitté la région. À part pour mon service militaire, qui a été une étape importante aussi de mon parcours. Donc, j'ai grandi à la campagne, dans un milieu assez sécure, plus ou moins. En fait, voilà, mes parents, c'était la classe moyenne industrielle, en fait. Voilà, donc, ils commençaient à monter en grade dans leur carrière. Mon père a été longtemps chef d'un bureau d'études et ma mère, responsable commercial et puis chef des ventes, et elle a fini directrice d'un site de production. Et on parle de l'industrie nucléaire, tu vois, un milieu particulièrement réac, misogyne, patriarcal, tu vois. Et ma mère, voilà, ma mère s'est battue contre ça, donc ça a été une source d'inspiration pour pas mal de gens, en fait, hein. C'était pas évident dans les années 60 de démarrer. De démarrer dans l'industrie, hein, en tant que femme, quoi, voilà. Et puis, à côté de ça, mon père était fils d'ouvrier, tu vois, et ma mère est une bourgeoise, hein, voilà, bourgeoise de la région de Beaune, enfin, voilà, dans ce coin-là. Et mon éducation, voilà, c'était Marx, tu vois, ce qui est assez curieux. Mes parents étaient fichés aux renseignements généraux en tant que marxiste dans les années 70, parce que le Havre était la ville communiste, c'était le bastion marxiste à l'époque, en fait, quoi. Et donc, éducation, ouais, Françoise Dolto et compagnie, donc j'ai grandi sans aucun cadre. Alors ça aurait pu se passer très bien pour ma sœur, ma grande sœur, tu vois, qui est fiable, responsable, sérieuse, constante, prévisible, tu vois, sur qui on peut compter, qui a fait des études, qui a un job de direction dans la fonction publique, tu vois. Elle s'est faite son cadre toute seule. Moi, c'était différent, quoi. Ça s'est pas passé comme ça. Il y avait personne pour me tenir, donc voilà, j'ai été un ado perturbé, révolté, violent, enfin. Tourmenté, tu vois, écorché vif et un peu toxico, enfin bon, toute la panoplie, baudelairien, tu vois, enfin le truc comme ça. Bon, il y a quand même eu la guitare, tu vois, vers 16 ans que j'ai commencé, que je pratique encore aujourd'hui, qui m'a permis, ouais, qui m'a permis de tenir le coup. Et en fait, j'ai été marqué négativement, très négativement, par tout un tas de choses à cette époque-là. Par le système scolaire, j'ai gardé une hostilité en fait vers tout ce qui représente l'autorité systémique, quoi. Donc le corps enseignant, mais plus tard ça a été les patrons, les contremaîtres, et puis même plus tard les gourous dans le monde de l'hypnose. Voilà, j'ai vraiment un problème avec l'autorité. J'ai travaillé dessus, mais ça reste voilà, ça reste quelque chose d'assez sensible. Et donc, bon, j'ai quand même réussi à tirer jusqu'au bac, mais je t'avoue que les années de lycée, lycée technique, bon, j'ai appris des choses, hein, tu vois, j'ai quand même réussi, bon, j'ai redoublé plusieurs fois, mais quand même, bon, voilà. Mais on va dire que mes parents étaient contents, mais après, bon, après le bac, puis c'est des années, enfin, je m'en rappelle pas, c'est le brouillard, quoi, tu vois. À part des trucs sur lesquels j'ai bossé, parce qu'on te bourrait le crâne avec le dessin technique, les maths, la résistance des matériaux, la techno, tous ces trucs-là. Le côté logique des sciences dures, des sciences exactes, en fait. Les sciences industrielles sont des sciences exactes. Voilà, ça te détermine d'une certaine façon. Donc ça, je pense que la structuration de mon esprit, elle est passée aussi par la culture technique, d'accord? On peut dire scientifique, je sais pas, j'ai jamais fait de recherche scientifique, tu vois. C'était plus de l'application, de l'exécution et des choses comme ça. Bon, c'était pas inintéressant et ça fait aussi partie des choses qui vont se répercuter sur ma pratique par la suite. Bon, après le bac, j'ai dit ouais, c'est bon. Foutez-moi la paix, j'en ai marre, je me tire. Bon, j'ai tout envoyé balader. Ça m'a fait du bien sur le moment. Je suis parti, voilà, j'ai déménagé à 30 km, j'ai trouvé un job en 3-8 dans une usine. C'était nul, c'était la galère, tu vois, mais il y avait une bonne ambiance. Je connaissais personne là-bas, j'avais mon premier appart. Voilà, et j'ai passé 6 mois, 1 an comme ça. Tranquille, tu vois, à vivre vraiment dans la solitude, dans le retrait, c'est-à-dire j'allais bosser, je rentrais chez moi, je fumais des pétards, je dormais, je retournais bosser. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de me lever le matin pour aller bosser, et puis j'ai disjoncté, quoi, tu vois, j'ai vraiment disjoncté. Bon, je te passe les détails, mais ça a été jusqu'où ça pouvait aller. Mais bon, je suis encore vivant. J'avais des parents qui étaient là, qui ont été là pour moi, qui m'ont repêché. Je me suis retapé, j'ai recommencé à bosser un peu. Bon, j'ai bossé au McDo, tu vois, des boulots comme ça, bien chiants, mais ça m'a fait du bien. Puis j'ai rencontré des gens, tu vois. Et j'ai fait plein de boulots comme ça par la suite, où j'ai rencontré plein de gens. Et ça, je pense que c'est un. Quelque chose qui a conditionné ma pratique de l'hypnose par la suite aussi, tous les gens que j'ai rencontrés en fait. Et donc après, je suis parti faire mon service militaire, je pouvais plus reporter, voilà, j'avais plus d'études en cours, donc à un moment, il fallait y aller. Je me suis retrouvé en Lorraine, à Metz, dans un régiment de hussards, régiment de transport, tu vois. Bon, bah alors j'ai passé permis poids lourd, permis transport en commun, j'ai pété un bus, voilà, pendant une mission de transport. Je transportais je me souviens, c'était les gars, ils étaient sympas, c'était les gars de la brigade de guerre électronique, c'était les transmissions en fait, quoi, analogique et tout, tu vois, ça ferait une bonne série aujourd'hui, ça, les transmissions militaires de l'époque là. Et donc, bon, un accident avec une civile, elle a été blessée, donc voilà. On m'a dit, t'es trop dangereux avec le bus, on va te confier les armes, en fait, et voilà. Et bon, puis j'ai passé les examens pour être brigadier, brigadier chef, et je suis devenu le responsable du magasin d'armes, de l'armurerie. Alors non, les balles sont pas stockées avec les armes, hein. C'est stocké ailleurs, ils sont pas fous, quoi. Mais de temps en temps, on arrivait à piquer des balles à blanc et à travers les fenêtres grillagées, des fois, on tirait à blanc sur les bidasses qui rentraient bourrées en pleine nuit. Voilà, c'était rigolo. Et puis, je passais la plupart de mon temps, bah, c'était des permanences d'une semaine où tu ne quittes pas l'armurerie de la semaine, sauf pour le footing du matin et puis les repas, quoi. Donc, vraiment, j'ai vécu pendant plus d'un an, parce que j'ai fait un service militaire prolongé qui me permettait d'avoir à peu près un salaire. Parce que en 98, quand tu étais militaire du contingent, tu vois, militaire du rang appelé, soldat deuxième classe, tu gagnais 563 francs par mois. 70 euros, tu vois. 73 euros à la louche par mois. Bon, t'es nourri, logé, blanchi, mais quand même. Non, même pas blanchi en plus. Fallait te démerder pour laver tes fringues. Donc 500 balles, bah, ça te payait les clopes, la bière, et si tu voulais fumer, enfin si tu voulais du shit, il fallait faire il fallait dealer, quoi, tu vois. Donc de temps en temps, il y avait des expéditions pour aller à Maastricht, aux Pays-Bas, voilà, pour ramener du matos, revendre au prix fort à la caserne, et on finançait nos consommations comme ça, quoi. Voilà, à la débrouille. Mais c'était intéressant de vivre un peu dans le dénuement, tu vois. Et l'armée, en fait, c'est la société la plus égalitaire que j'ai vue, en fait. Voilà. Il y avait des régiments de femmes aussi. Bon, la caserne, c'était mixte. C'était un régiment de transport, donc on transportait souvent du matériel militaire de Metz jusqu'à Marseille. Et de Marseille, ça partait, je sais plus, en Yougoslavie, au Tchad, je sais pas où, tu vois. On faisait des choses comme ça. Donc c'était pas inutile, si tu veux, pas complètement, quoi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup lu pendant cette période-là, parce qu'il n'y avait que ça à faire, l'armurerie, si tu veux, à part une fois de temps en temps, les gars qui ramenaient les flingues quand ils revenaient du terrain, nous on esquivait les trucs chiants comme ça, tu vois. Et puis de temps en temps, il y avait des revues, il fallait vérifier, nettoyer les masques à gaz une fois par mois, bon voilà, des trucs comme ça. Donc de temps en temps, il fallait un peu taper dedans, mais bon, globalement, on foutait pas grand-chose, quoi. Donc l'armurerie, c'était un peu un Amsterdam, tu vois. On lisait beaucoup, moi j'avais ma guitare, il y avait la Nintendo 64, bon voilà, on vivait un peu comme des prisonniers, mais franchement, c'était pas si mal, quoi. Et là, j'ai eu un collègue armurier qui m'a prêté un bouquin, Le guide de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là, c'est une antiquité maintenant, ce truc, mais tout ce qu'on considère comme des évidences aujourd'hui, à l'époque, c'était révolutionnaire. Les histoires de pieds dans la porte, de choix illusoires, toutes ces choses-là, c'était. Ouais, moi, direct, j'ai accroché à ça, quoi. Et donc, mon camarade, qui était commercial dans le civil, en fait, il vendait des aspirateurs. Il était VRP il survendait des aspirateurs. C'était un escroc, le mec. Il était branché sur la PNL, donc il m'a parlé de la PNL. Et puis il m'a donné envie de m'intéresser au métier de la vente, en fait. Alors pas pour survendre des aspirateurs, mais le côté persuasion, etc. J'ai vu que rapidement je pouvais gratter quelque chose là-dedans, tu vois, que je pouvais un peu sortir des boulots d'usine, des trucs vraiment chiants de l'industrie, que je pouvais m'en sortir en apprenant à communiquer comme ça, à embobiner les gens, si tu veux. Et effectivement, donc il m'a expliqué, voilà, développement personnel, putain, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ouais, il y a eu une étincelle avec, il y a eu la petite étincelle avec le terme de développement personnel. Donc il m'a dit, bah, quand tu rentres en perme, tu vas à Lyon, tu vas à la Fnac, et puis il y a un rayon développement personnel. Voilà, faut chercher un peu. C'était une toute petite étagère à l'époque, et t'achetais ça, c'était comme acheter de la drogue, tu vois, c'était bizarre, quoi. Les gens trouvaient ça bizarre. Et pendant des années, j'ai lu des bouquins de développement personnel, tout ce que je pouvais. Après, il y a eu Internet qui a permis de trouver des ressources. Et quand ma copine, la mère de notre fils, lisait des bouquins à l'eau de rose, elle me disait, mais je comprends pas comment tu peux lire des trucs comme ça a l'air super chiant. Mais ça m'a permis d'accéder à des jobs où j'ai pu faire preuve de capacité parce que j'avais acquis de la technique, j'avais acquis des repères pour tout ce qui est médiation, résolution de conflits, de litiges, d'écouter les gens, de pouvoir vendre quelque chose, etc. Et la vente, bah, tu vois, j'ai bossé en magasin, je suis devenu chef de rayon. Après, bon, pour des problèmes d'autorité, je suis parti. Et puis j'ai bossé chez des grossistes pour l'industrie, pour les artisans, les artisans du coin. J'ai vendu de l'outillage, j'ai vendu de la transmission, c'est-à-dire des roulements, des courroies, des choses comme ça, des produits très techniques, très normalisés, tu vois, où les erreurs coûtent très cher. La boîte paye des pénalités en cas d'arrêt de chaîne si tu peux pas fournir dans les temps. Enfin, c'est vraiment un monde où il y a une pression pas possible. Humainement, c'est un peu sous-développé, mais c'est intéressant. Et un de mes derniers jobs, c'était de vendre des pièces d'étanchéité sur plan pour l'industrie et pour l'armée, tu vois. Donc j'ai vendu des joints pour des sous-marins, enfin des trucs comme ça. Enfin, partout où je suis allé, en fait, souvent je suis rentré en bas de l'échelle et je suis monté en grade, en fait. Une des dernières boîtes où j'ai bossé, j'y suis resté 7 ans, tu vois. J'étais rentré comme magasinier cariste, je suis passé à tous les postes de la chaîne logistique, de la réception des marchandises à la préparation de commandes, l'expédition. la gestion de l'ensemble, et puis on m'a confié des équipes à encadrer, des gens à former. Donc merci la PNL, en fait, tu vois, parce que moi, mon destin, c'était de devenir mon père, en fait, tu vois, c'était terminer dessinateur-projeteur, bosser dans un bureau d'études, et puis je sais pas si j'aurais pas fini comme lui, c'est-à-dire avec un problème de boisson fatal, quoi. Voilà. Mon fils aîné, ça a changé plein de choses, tu vois. C'est-à-dire que le boulot, j'en avais un peu plus rien à foutre après. L'argent, tout ça, l'ambition, c'est passé au second plan. J'ai, je sais pas, il s'est. Alors ça s'est pas passé instantanément, hein, si toi-même t'es père, il faut vouloir être père, faut prendre sa place, tu le deviens pas comme ça. C'est pas naturel du tout, hein, au début en tout cas. Et puis il y a un moment où c'est comme si ton gamin il avait toujours été là, tu vois. C'est comme si, enfin, c'est devenu une évidence, tu vois. Et à un moment, ça t'arrivera si c'est pas déjà fait au niveau de ta pratique de l'hypnose. À un moment, c'est comme si t'avais fait ça toute ta vie. Et ta vie d'avant, les histoires, je suis en reconversion, tout ça, c'est acté, c'est fixé, c'est terminé, tu vois. Moi, je suis arrivé à ce niveau-là, enfin à ce niveau, à ce truc-là, tu vois, sans m'en rendre compte en fait. Hein, un jour, je me suis demandé, tiens, j'en suis où moi, ma légitimité, des trucs comme ça. Et bah, depuis 10 ans que je fais ce métier, je suis encore là. J'ai fait ma place sur Mâcon. Je la maintiens si tu veux. Ouais, c'est voilà, la vie d'avance. Pour ça, je fais ce podcast. Comme ça, je raconte ma vie d'avant, un peu en détail, un peu, le plus objectivement que je sois capable de faire. Mais après, j'en parlerai plus si tu veux. Voilà, c'est-à-dire si on me demande, tiens, présente-toi, c'est quoi ton parcours, bah, je pourrais dire, bah écoute, je réponds à ce truc-là en détail dans tel épisode, et maintenant on parle travail, quoi, on parle d'hypnose. On parle pas de moi pendant 1 heure, si tu veux. Ça, c'est insupportable, en fait. Les gens qui. Mais dans l'hypnose ou ailleurs, tu vois, qui passent plus de temps à parler de leur expérience, leur parcours, mon CV, moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit ma première symphonie à 4 ans, machin, machin, moi. Tu sais, en fait, c'est toute cette culture de la modélisation qui me barbe, quoi. J'en peux plus, en fait, de la modélisation. Je ne supporte plus cette manière qu'on a d'idéaliser les gens. D'en faire des modèles, c'est vraiment, tu sais, des trucs, l'homme nouveau, tu vois, c'est, je sais pas, c'est un peu louche pour moi, tout ça, quoi. C'est pas la vision que j'ai du monde de l'hypnose, c'est pas celle que j'ai envie d'avoir devant les yeux, en tout cas. Donc je propose, en fait, qu'on abolisse le racontage de la vie d'avant, en fait, dans le monde de l'hypnose. Bon, alors à part ça, il y a un moment, mon fils a eu des problèmes de santé suffisamment graves pour que j'aie un déclic au niveau de l'alcool. Mais en fait, il fallait que je sois en état de conduire n'importe quand. Et à cette époque, l'alcool, c'était devenu un problème. Enfin, c'était un problème depuis très longtemps déjà, mais ça commençait à devenir ingérable. Ça m'échappait, si tu veux. J'étais séparé de la mère de notre fils, et puis voilà, il fallait gérer. Donc j'ai pris une décision, j'ai vu un addictologue, il m'a filé des médocs, ça a bien marché, et depuis 12 ans, je suis sobre, en fait. Voilà, complètement. J'ai jamais dérapé au niveau de l'alcool en 12 ans, j'en ai pas l'intention, je suis content de cette décision, tu vois. Et ce qui est intéressant, je trouve que ça contredit pas mal de choses qu'on dit, bah, notamment sur les addictions, etc. Moi, au départ, j'ai arrêté pour mon fils. Après, c'est devenu pour moi. Après, j'ai compris mon intérêt, mais des années plus tard. Au départ, il y avait une contrainte. Donc, j'ai fini par intérioriser la contrainte, et j'y ai vu les bénéfices pour moi. Mais ma motivation interne vient à l'origine d'une motivation externe, et ça peut aussi fonctionner, tu vois. Donc je pense qu'il faudrait prendre un peu de distance avec tous les poncifs, tu sais, qu'on entend. Non, faut le faire pour vous, pas pour les autres, machin. Bon. Et voilà comment moi je me positionne au niveau du développement personnel aujourd'hui. Justement, c'est trop personnel. On devrait parler de développement social, de développement collectif, tu vois. Mais plus de développement personnel. Comme si il y avait un espèce de distillat de l'individu, un individu un peu chimiquement pur qu'on pourrait isoler du collectif, ça n'existe pas, ça. Voilà. Par contre, des gens isolés, l'avantage, c'est que tu peux leur vendre absolument tout ce que tu veux, quoi. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et donc, cette décision d'être clean, ça a précipité pas mal de choses. Alors, pendant un an, j'en ai chié, quoi. Vraiment, mais j'en ai bavé. D'autant plus que, et c'est là que j'ai compris un truc super important, que je vais t'annoncer dans un moment, c'est que surtout, je fréquentais les mêmes personnes. Donc, et en plus, même mes collègues de travail, j'avais un boulot où je vendais de la peinture à des artisans, tu vois, ce genre de choses. Mes collègues étaient, c'était des alcooliques patentés, quoi. Et mes amis, c'était aussi des alcooliques sérieux, tu vois, réguliers, constants dans leur truc. Donc, j'en pouvais plus, en fait, quoi. Et un jour, le directeur régional est venu me chauffer pour une connerie, tu vois. Une connerie qu'en plus, c'était de sa faute parce que la boîte était mal gérée. Et en plus, cette boîte, j'avais bien vu, j'y étais depuis, je sais plus, un an ou deux, tu vois. Mais que, à peine j'étais arrivé dans la boîte, ça se voyait qu'elle était en train de se casser la gueule. Tu sais, on avait des chiffres tous les jours, on était en négatif tout le temps. Et j'ai compris que le DR, le directeur régional, trafiquait les chiffres pour faire croire qu'on était bon, tu vois, pour pas se faire virer puis toucher ses bonus. Et donc, il fallait embaucher régulièrement pour justifier. Enfin, tu vois, t'as un effectif en fonction de ton chiffre d'affaires dans les boîtes commerciales. Donc, à un moment, on dit, bah, tu gagnes peu de temps, faut que t'embauches un nouveau vendeur, tu vois. Et donc, il est venu me chauffer et c'est là que le déclic. Où j'ai dit, mais tu sais, va te faire foutre en fait, quoi. Si t'es pas content, tu me vires. Si tu veux pas me virer, on fait une rupture conventionnelle, mais tu viens pas me, voilà, tu viens pas me faire chier, quoi. Donc il a commencé à il a commencé à paniquer, et moi j'ai commencé à chercher autre chose. Mais là, j'en étais à un moment de mon parcours où je sentais qu'il fallait que je travaille sur mon environnement, que mes amis c'était plus possible, que mes collègues de boulot c'était plus possible, que je voyais l'alcool partout autour de moi, le salariat c'était plus possible, et les directeurs régionaux, tu sais, tous ces petits bonhommes qu'on réussit à gratter un peu de pouvoir et qui croient qu'ils peuvent venir te pisser dessus là du haut de leur petit galon d'esclaves du grand capital, tu vois. Ces mecs-là, je les supportais plus, en fait. Vraiment, je crois que j'aurais fini par devenir méchant à force de les fréquenter, quoi. Et donc, parallèlement à ça, j'ai suivi ma copine de l'époque dans des trucs de vente à domicile. Donc, on a commencé à vendre des bijoux magnétiques. On faisait de la vente en réunion, un peu chacun de notre côté. On commençait à recruter des distributrices pour toucher des commissions supplémentaires sur leurs ventes. Enfin, tu vois, le genre de truc un peu pyramidal, etc. Et après, j'ai ajouté une activité cosmétique et je continuais à aller bosser. Je faisais mon boulot normal. De toute façon, la boîte se cassait la gueule, donc du boulot, il n'y en avait pas des masses. Et en fait, je passais mes journées à développer mon truc sur Facebook, à parler de mes bijoux magnétiques et de mes cosmétiques, à prendre des commandes avec mes clients, et je développais mon truc comme ça. Et puis, à un moment, le directeur régional est revenu me faire chier pour encore une autre connerie qui était encore de sa faute, tu vois. Je te passe les détails. C'était un problème de sécurité, mais il n'y avait pas, enfin, la boîte n'était pas aux normes au niveau sécurité. Donc, si je voulais bosser, si je voulais faire mon boulot, j'étais obligé d'être en faute professionnelle permanente. Il s'agissait de conduire un chariot élévateur sur la voie publique, dans la rue à Mâcon, si tu veux, quoi. Voilà. Et donc, il y a un automobiliste qui s'était plaint, donc parce que j'avais bloqué la circulation en déchargeant un camion, tu vois. Machin, et que normalement un chariot élévateur n'a rien à faire sur la voie publique. Et donc il est revenu me faire chier, et là j'ai dit, bon bah tu sais quoi, salut, je suis parti. Et il a reçu ma notification d'arrêt de travail 2 jours plus tard, tu vois, le temps que le courrier arrive. J'ai jamais répondu à ses appels. Tu vois, il m'appelait, il laissait des messages, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, Manu, attends, viens, faut qu'on parle. Jamais répondu, et puis je suis resté en arrêt comme ça 3 mois, tu vois. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à chercher une formation en hypnose ericksonienne, à lire des bouquins sur le sujet, à commencer à tester les trucs, voilà, parce que ça faisait 1 an ou 2 que je pratiquais déjà la sophrologie, et c'était quelque chose que je trouvais intéressant, tu vois. Et suite à la mort de mon père, j'ai eu des séances d'hypnose. J'en avais déjà eu des années avant avec un psychiatre, mais c'était, enfin, je m'en rappelle pas. C'était pas convaincant, quoi, si tu veux. Et là, ouais, il y avait cette hypnotiseuse sur Bourg-en-Bresse, tu vois, qui faisait de l'hypnose ericksonienne et qui m'a fait une séance sur le sac à dos, tu vois, tu grimpes la montagne avec un sac à dos, quand tu arrives en haut de la montagne, tu poses le sac, tu le vides, tu le mets dans le feu de la transformation et ça te donne un symbole, et puis après, je sais pas, tu redescends, tu rentres chez toi, tu vois, et j'étais super détendu après, super, super détendu. Bon, mon père était toujours mort, j'étais toujours en galère avec l'alcool, mais sur le moment, je me sentais bien. Et j'en attendais pas plus, si tu veux. Moi, ça me suffisait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais un coup de pompe, de déprime. Enfin, je pétais les plombs. On me propose ça. Et puis, ouais, bah, la nana, elle me lit un script, elle me met en hypnose. Et puis, je repars de là. Bah, j'étais bien, si tu veux, quoi. Alors, ça a duré quelques semaines. J'y suis retourné. Ça a duré quelques semaines. J'y suis retourné une troisième fois. Ça a duré encore quelques semaines l'effet. J'y suis plus retourné, puis je sais pas, après je suis, enfin, tu vois, j'ai continué ma vie, j'ai continué mes trucs, je suis passé à autre chose, quoi. Donc, voilà, moi, enfin, l'hypnose, je l'ai abordée à ce niveau-là, si tu veux, quoi. C'est vraiment comme ça. Alors après, j'avais aussi une pratique qui a encore beaucoup d'influence pour moi aujourd'hui, c'est le Tai Chi Chuan, tu vois, que j'ai découvert à peu près à l'âge de 20 ans, où j'étais à fond dans le karaté. Le sport après l'armée, enfin, d'ailleurs, même, tu vois, à 48 ans, j'ai encore une bonne condition physique parce que je continue à courir toutes les semaines, à m'entretenir, etc. Donc ça, c'est une bonne chose, quoi, tu vois. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te raconter à part ça? Bon, bah, je pense que j'ai raconté, tu vois, l'essentiel de ma vie d'avant, si tu veux, c'est de la résilience, tu vois. C'est un parcours humain, comme le vivent à peu près les gens que je reçois dans mon cabinet, tu vois. Je suis pas différent d'eux, en fait. Je pense que ça joue sur la pratique. Dans des environnements, bah, de nombreux environnements de travail différents, parce que bon, je vais pas énumérer aussi toutes les missions d'intérim que j'ai faites à droite et à gauche. Bon, j'ai appris à souder au semi-auto, tu vois, j'ai bossé dans l'agroalimentaire, j'ai emballé des patates, j'ai cueilli du raisin dans le Mâconnais, etc. Bon, voilà, les rencontres, la diversité humaine. Tu vois, la diversité professionnelle aussi. Et puis l'habitude d'écouter les gens me raconter leur vie, parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai appris, c'est à me comporter comme un caméléon dans le monde du travail. Je suis capable, et ça, je sais pas si c'est un déterminisme ou si c'est quelque chose qui a été acquis par les études techniques, en fait, tu vois, c'est d'avoir un esprit synthétique, schématique. C'est-à-dire quand j'arrive quelque part dans un environnement, dans un cadre, dans un univers un peu que je connais pas, j'ai une facilité à repérer les répétitions, tu vois, les choses qui se répètent, à comprendre les codes, les éléments de langage, etc. Et j'arrive à m'intégrer, peut-être pas à m'intégrer, mais en tout cas à ne pas me faire rejeter dans à peu près n'importe quel environnement, tu vois. Et j'étais en contact des fois avec des gens, bon, de par quelques activités qui ont été des erreurs de jeunesse, si tu veux, à fréquenter des milieux où les gens sont pas, tu vois, sont pas dans les mêmes dans les mêmes préoccupations que nous autres qui vivons dans nos tours d'ivoire quand on fait de l'hypnose, tu vois. Nous, on est quand même dans une activité où on est un peu protégé de tout, hein. Enfin, on fait pas vraiment partie de la lutte des classes, si tu veux, dans notre cabinet d'hypnothérapeute. Mais il y a des gens dehors qui bossent dans des conditions pas possibles, il y a des gens qui bossent dans des conditions même pas légales, tu vois. Il y a des gens qui ont des vies terribles. Moi, je me souviens d'un mec, quand je faisais l'armée, on partait en perme, tu vois. Et le gars dit, mais tu viens pas à la gare? Bah non, tu sais, moi je suis orphelin en fait, donc je reste là le week-end, et puis voilà, puis le mec il s'est engagé après. Enfin, ouais, ça remet pas mal de choses à l'endroit, quoi. Et donc, l'importance du cadre, tu vois, c'est vrai que j'ai compris à l'armée, où j'ai eu quand même peut-être la seule expérience positive par rapport à l'autorité. Parce que là, il y avait quand même des mecs costauds qui étaient capables de me tenir, tu vois. Et en fait, ça me faisait du bien, quoi. Alors, pas au point de m'engager. J'étais chaud à un moment, tu vois. J'étais prêt à m'engager dans les paras. Non. Voilà, non. Non. Finalement, c'était pas pour moi, tu vois. Je sais pas, j'ai un déclic quand j'ai rencontré la mère de notre fils, Raphaël. Non, je suis pas un tueur, tu veux, quoi. Voilà, je suis pas un militaire, clairement pas. J'avais besoin d'un cadre que j'ai gardé. J'ai compris l'importance de la routine, de la régularité, de la constance, des choses, de l'effet des petites choses que tu produis jour après jour, tu vois. L'importance des routines, des rituels qui te permettent de supporter le chaos, en fait. Se fondre dans la masse. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué négativement quand j'étais au collège, au lycée, tout ça. Même à l'école, même en maternelle, aussi loin que je m'en souvienne, tu vois, c'était l'impression d'être marginal, de pas être comme les autres. Et je l'ai vu quand on est venu habiter en Bresse, tu vois, près de Mâcon, où t'avais quand même le monde agricole, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'étrange, tu vois. On faisait partie des premières familles de la classe moyenne qui venaient faire construire une maison à la campagne, donc on n'était pas très bien vus, il y avait un peu un choc culturel, et puis c'était un environnement toxique, en fait, quoi. C'est-à-dire que t'avais des mecs, je me souviens, au collège, hein, donc en 6e, 11 ans, 12 ans, tu vois, des mecs qui te parlaient de Le Pen, tu vois, crâne rasé, bomber kaki, Doc Martens avec les lacets blancs, 12 ans, voilà, c'était ça le délire, quoi. Et moi, là-dedans, bah voilà, avec mes copains, on était plus en mode Bob Marley, tout ça, quoi. Donc, ouais, l'intégration, c'était pas une évidence pour moi. J'ai dû beaucoup travailler sur ma communication, sur tout un tas de choses, sur beaucoup d'affect, pour devenir une personne sociable, en fait. voilà ce que je peux dire. Donc l'influence sur ma pratique de l'hypnose, sur mon interprétation de l'hypnose. Quelle est l'influence de mon parcours, de mon déterminisme sur ce que je pratique aujourd'hui? Je sais pas trop. L'approche technique, peut-être, le analytique, rationnel, si on veut, comme des gens que j'écoute dans le monde de l'hypnose, hein. J'en écoute beaucoup. Enfin, j'écoute pas que moi-même, si tu veux. Il y a quand même tout un tas de gens, un peu une nouvelle vague, si tu veux, hein. Je pense à des gens comme Antoine Garnier, Jordan Véro, tu vois, qui vont partir d'observations, qui vont partir de choses qu'ils constatent, qu'ils observent, de situations vécues, de situations observées, de situations réelles, pour construire leur pratique, leur analyse et leur modèle, en fait, quoi, leur modèle de transmission, leur modèle pédagogique, est basé sur des situations concrètes. Et ça, moi je les rejoins là-dessus, si tu veux. Clairement, les métiers techniques, etc., de conception, de choses comme ça, m'ont vraiment apporté ça. L'idée d'être dans quelque chose de concret, de vérifiable, autant que possible, c'est pas toujours possible, et d'éviter les questions qui sont des sables mouvants, en fait, quoi. Par exemple, je vois qu'il y a encore des gens qui te parlent de l'inconscient, tu vois, de parler à l'inconscient, quoi, en 2024, tu vois. Enfin, je trouve ça déprimant. Mais l'inconscient, ça n'existe pas, l'inconscient. Si tu veux, en fait, ça parle qu'aux hypnos, l'inconscient. C'est pas un truc sur lequel tu peux t'appuyer. C'est une idée, c'est un truc qui est flou, qui est nuageux, tu vois, qui est incorporel, qui n'a pas de substance. On ne fait que se noyer dans des questions comme ça de qu'est-ce que c'est l'inconscient, est-ce qu'on parle vraiment à l'inconscient? Voilà. Est-ce que si je fais telle suggestion, il y a une réponse? Est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà. Là, on parle de quelque chose qui existe, qui est concret, qui est réel. Et à partir de là, on peut commencer à assembler les choses et à construire une pratique. Voilà pour la biographie. Ben, j'espère que voilà. J'espère que c'était intéressant pour toi à écouter. Et moi, comme ça, j'ai fait ma présentation, j'ai raconté mon CV, mon parcours, mon expérience exceptionnelle. Donc, c'est une question maintenant que je pourrais éviter complètement avec bonne conscience. Donc, merci de ton attention, merci pour ton écoute, merci pour ton temps, et à très bientôt. Ciao!